Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. C'est un appel à la grève générale qui est lancé aujourd'hui à travers toute l'Algérie. Appel lancé sur les réseaux sociaux. Après les rassemblements massifs vendredi dans tout le pays, la population continue de se mobiliser contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Et partout dans le monde aussi, la diaspora se mobilise, comme ce midi à Paris ou cet après-midi à Marseille. À Toulouse également, le collectif Algérie démocratique soutient le mouvement anti-Bouteflika. Il manifestait hier, Suzanne Chodjaï.
Les membres du collectif, toujours très fiers du peuple algérien, Mohamed manifestera jusqu'au bout, même s'il doute.
À travers la rue, à travers les manifestations, j'ai bien peur que ce soit que de la littérature et que Bouteflika passera. Avec le rapport de force, ils vont arriver à faire quelque chose et à imposer un système. Mais le peuple, aujourd'hui, il est réveillé. C'est une lueur d'espoir, comme on dit.
Avec des manifestations qui, selon lui, se passent bien.
C'est exceptionnel, le peuple algérien, comment il est pacifique, quoi.
Pourtant, la candidature du président Bouteflika reste ridicule aux yeux de Nadir.
Non, ça tient pas debout, non, du tout. Ils réclament un peu plus de temps afin d'essayer d'effacer leurs traces de magouille durant les 20 ans de règne.
Avec un président fantôme.
On peut le considérer comme mort aussi. Politiquement, il est mort. Il n'est pas sur la scène politique. Et il n'a pas adressé de parole à son peuple depuis 7 ans ou plus. Donc maintenant, ils nous disent il est vivant, il arrive à écrire des lettres. Nous, on n'a pas vu de lettres écrites par une momie qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à faire un signe de doigt. Voilà, donc ils ne peuvent pas mentir non plus.
Le collectif attend avec impatience la décision du Conseil constitutionnel mercredi. Une réunion pour valider ou rejeter la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
En Tunisie, une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté ensemble à Tunis contre un cinquième mandat du président Bouteflika. En France, la mobilisation des gilets jaunes est à son plus bas niveau depuis le début du mouvement, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Seul chiffre disponible à 7h, 28 600 personnes auraient défilé partout en France et seulement 3000 à Paris pour le deuxième jour de cet acte 17, organisé sur 3 jours cette fois entre vendredi et aujourd'hui. Et l'Institut Via Voice publie son baromètre à l'occasion des Assises du journalisme en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Média Monde et le journal du dimanche. Une enquête qui se penche notamment sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, avec des conclusions en demi-teinte, Margot Steve.
Ils sont un peu plus de la moitié, 53% exactement, à penser que le mouvement a été mal couvert par les médias. Principale critique avancée, les journalistes n'ont pas donné la parole de façon équitable, mais les analyses sont contradictoires. Pour 35% des Français, la parole a été trop donnée au gouvernement. Pour 18%, ce sont les gilets jaunes qui ont monopolisé les micros. Concernant les violences commises à l'égard des journalistes, on se souvient de cette équipe de LCI frappée à Rouen ou de cet œuf jeté à la tête d'un journaliste de BFM TV. Une grande majorité des sondés, 72%, estiment qu'il est inadmissible de s'en prendre physiquement aux journalistes. Mais 15% pensent quand même pouvoir comprendre ces violences. Dernier renseignement de ce sondage, les journalistes ne sont pas les seuls responsables de la défiance qui touche les médias. Pour 7 Français sur 10, les responsables politiques ont aussi une part de responsabilité.
France Culture, il est 8h05, la suite du journal. Une soixantaine de médecins, dont l'ancien ministre Bernard Kouchner et l'urgentiste Patrick Peloux, appellent à la protection immédiate de leurs confrères soudanais dans une tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche. Le Soudan connaît des manifestations depuis le 19 décembre dernier, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Après avoir cité l'arrestation de 4 médecins, les signataires de cette tribune indiquent que le 17 janvier, un médecin, le docteur Babiker, a été froidement abattu alors qu'il soignait des manifestants blessés et qu'il s'était présenté aux forces de sécurité. 28 collègues sont actuellement retenus en détention, selon les mots de ce texte. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation, selon plusieurs ONG. Les autorités de Khartoum reconnaissent officiellement 31 morts. De son côté, l'ONG Human Rights Watch a recensé au moins 51 morts. Nous partons maintenant en Russie où des opposants aux mesures de contrôle visant Internet souhaitent manifester aujourd'hui. Une loi est prévue officiellement pour lutter contre les fausses nouvelles, mais que les opposants dénoncent comme un texte liberticide, Claude Bouillot.
contre l'isolement de Runette. Le mot d'ordre du Parti libertaire, principal organisateur de la manifestation cet après-midi sur l'avenue Sakharov, suffira-t-il à mobiliser les opposants à la réforme? Rien n'est moins sûr, tellement la pression est grande actuellement, qui s'exerce sur les usagers du net en Russie. Même si le contrôle des réseaux sociaux, par exemple, apparaît bien difficile techniquement, y compris pour Roskomnadzor, le gendarme des communications dans le pays, mis en échec l'an dernier dans l'affaire Telegram à cause de l'ingéniosité de ses concepteurs, l'arsenal répressif, lui, va se faire de plus en plus lourd. Cette semaine, la Douma a mis en place une législation à base d'amendes toutes plus importantes les unes que les autres. En cas, par exemple, de non-respect des autorités ou de diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, il en coûtera jusqu'à 1 million de roubles aux contrevenants, plus de 13 000 euros, cumulables avec, en cas de récidive, 15 jours de prison. Premier visé, qui appelle à participer à la manifestation aujourd'hui, Alexei Navalny, pour qui Internet et les réseaux sociaux représentent aujourd'hui quasiment le seul canal de communication de masse grâce auquel l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine peut encore critiquer le Kremlin.
Bruxelles lance un ultimatum sur le chantier ferroviaire du TGV Lyon-Turin. La commission qui le finance à hauteur de 40% a fait savoir que si lundi les appels d'offres pour les entreprises n'étaient pas lancés, l'Italie perdrait 830 millions de fonds européens. Les désaccords entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles semblent insurmontables et pourraient faire chuter l'exécutif à Rome. Les précisions d'Olivier Tosseri.
Le TGV Lyon-Turin risque de faire dérailler le gouvernement italien. Le président du Conseil Giuseppe Conte arrive difficilement à jouer les médiateurs entre les deux alliés de son exécutif qui, sur ce dossier, s'opposent farouchement et refusent de céder. Luigi Di Maio, comme Matteo Salvini, ont fait savoir qu'ils iraient jusqu'au bout et qu'ils ne redoutent pas l'épreuve de force. Le mouvement 5 étoiles rejette catégoriquement une infrastructure qu'il juge coûteuse et inutile. La Ligue refuse de renoncer à une liaison ferroviaire considérée comme indispensable à l'économie et aux exportations d'une Italie en récession. Le compromis est donc impossible. Ce lundi, un nouveau sommet gouvernemental sera convoqué pour prendre une décision définitive qui ne cesse d'être repoussée. Ce même jour, les appels d'offres pour la poursuite des travaux doivent être lancés sous peine de perdre les financements promis par Bruxelles. Giuseppe Conte demande à ce que tout soit suspendu dans l'attente de rediscuter le projet avec la France et l'Union européenne. Mais lundi, c'est Matteo Salvini ou Luigi Di Maio qui aura le dernier mot. Celui qui pourrait bien signifier le terminus de leur alliance au pouvoir.
La météo, une diagonale de pluie devrait s'étendre du sud-ouest jusqu'au nord-est de la France, du soleil au bord de la Méditerranée. Les températures augmentent encore ce matin, entre 9 et 17 degrés du nord au sud.